non, il n'y a pas de problème. Hein, c'est, vous arrivez à point. Si monsieur, dame ont pu dire leur texte, et on a pu écouter de la musique, des chansons, c'était très bien. Alors, c'est la première fois que vous venez ici, là, pour l'émission de Dessous de scène.
Ouais.
Ah, voilà. Donc, vous êtes invité pour cette pièce, Les Témoins. Que j'ai eu le plaisir de voir la semaine dernière. Et ça m'a paru être une pièce quasiment d'actualité.
Ah,
hein. Presque d'actualité. Hein, parce que je viens de recevoir un message téléphonique, quelqu'un qui vient de me dire « Vous, les libéraux libertaires, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Profitez bien de Macron, parce que ça va être bientôt Le Pen. »
Voilà. Ah oui.
Ouais, voilà. Je ne m'appelle pas Max Lamennais, il m'a dit en plus. Bon. Enfin bref, mais oui, c'est donc ça se passe. Vous allez raconter. Vous en parlerez mieux que moi.
Hein. D'accord.
L'ambiance est assez électrique. Ça se passe dans un journal qui s'appelle Les Témoins. Il se trouve que ce journal, il a une optique, c'est-à-dire ne pas appartenir à des partis. C'est pas un journal d'opinion. C'est ils veulent faire du pur journalisme, c'est-à-dire rester libre. Indépendants, et ça leur tombe sur... ça ne tombe pas des nues, parce que bon, il y a toujours quand même des clignotants qui annoncent... Alors, voilà, c'est un président d'extrême droite qui arrive au pouvoir avec des lois qui vont ligoter la presse, mais ça vient juste d'arriver, donc on est...
La pièce démarre le lendemain de l'élection d'un Amérindien, qui est donc le président d'extrême droite, qui arrive au pouvoir dans la salle de rédaction du journal. Qui effectivement se targue d'être extrêmement indépendant économiquement, mais aussi d'esprit, et de faire du journalisme pur, qui ne soit pas journaliste d'opinion. C'est leur ligne qu'ils essayent de défendre, mais ils sont confrontés avec cette élection à quelque chose d'inédit qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est le fascisme, l'avènement du fascisme. Et ils doivent se poser la question de savoir si c'est possible de continuer cette ligne éditoriale qu'ils se sont fixée, ou s'il est urgent de faire du journalisme d'opinion, de résistance. Et le premier débat de la pièce, c'est celui-là.
Voilà. Et donc, ça c'est une pièce qui dure 2 heures. En fait, moi, je voulais quand même un peu l'impression, mais c'est voulu, hein, d'un huis clos. Ouais,
oui,
c'est très resserré. Hein, c'est
à la fois un huis clos et à la fois... La moitié de la pièce se parle dans la salle de rédaction, c'est le pouls de la journal.
Voilà, c'est ça. On est avec des journalistes ce que j'ai bien aimé, c'est que tous ces journalistes, déjà, ils sont très différents les uns des autres. Hein. Il y en a certains, ils sont arrivés dans le journal... auparavant, ils étaient plutôt quand même plus politiques et ils ont quand même un peu baissé pour rentrer dans le journal et ils ont dit bon ben on fera pas de politique et la rédactrice en chef, elle par contre, elle ne veut pas faire de politique.
Ils suivent la politique,
mais ils ne veulent pas rentrer dans un camp.
Pour eux, il y a une frontière extrêmement nette et définitive entre le journalisme et le militantisme.
Ouais.
Et ils essayent de tenir cette ligne-là. Effectivement, il y a un des journalistes qui, lui, vient d'un journal de gauche, très marqué à gauche, etc. Donc il s'est adapté en venant au témoin. Mais quand l'extrême droite arrive au pouvoir, pour lui, il est évident qu'il faut prendre position de manière très marquée. Et le débat est là, est-ce qu'on peut continuer à faire du journalisme pur dans une situation comme celle-là, où est-ce qu'il faut commencer à résister avant qu'il soit trop tard, avant que la liberté de la presse soit entièrement détruite.
Ouais, et c'est, on pourrait appeler ça de la politique fiction,
ouais, enfin,
mais comment dire, alors j'ai vu dans votre note d'intention que vous étiez quand même, avant d'écrire cette pièce, vous avez rencontré des journalistes, notamment ceux de Libération, dans la pièce, ces personnages montrent différentes positions, justement. Ils ne sont pas du tout tous d'accord. Et c'est pour ça que l'ambiance
ça devient très, très tendu.
C'est très, très tendu. Hein. Mais en même temps, ça donne de la dynamique à la pièce, parce que ça dure 2 heures. Et c'est sans arrêt, c'est une guerre des nerfs.
Ouais.
C'est vraiment une guerre des nerfs.
C'est à la fois une guerre du journal contre le pouvoir, puisque le pouvoir, plus ça avance, plus passe des lois qui remettent en cause.
C'est pas une loi Pavlov, là, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pavlov, on peut penser à Pavlov.
Ouais,
qui
remet en cause la protection des sources, qui est le pierre angulaire du travail journalistique. Et puis, c'est aussi une guerre intestine, parce qu'ils ont tous des personnalités, des sensibilités différentes. Certains qui ont une ligne extrêmement dure et radicale et définitive sur le, comment faire du journalisme qui ne sont pas des journalistes d'opinion, et d'autres qui veulent faire évoluer ça avant que ce soit trop tard. Donc il y a une double guerre qui se met en place. Donc la pièce, effectivement, est assez tendue, parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est une pièce très dense. Et c'est 6 mois d'un combat à mort entre le journalisme et l'extrême droite, et aussi d'un combat interne qui est assez violent, lui aussi.
Oui, oui, c'est très... Puis, y a... on voit bien que les journalistes sont quand même très impliqués, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas ancrés dans la politique, ils font des reportages qui dénoncent le pouvoir, parce que le pouvoir, il est en business avec des industriels corrompus, etc. Donc, même s'ils ne font pas de politique, enfin, ils ne disent pas faire de politique, ils continuent leur boulot, ils font des enquêtes et ils ont l'intention, la plupart ont l'air d'être intègres, ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout de leurs enquêtes.
Bien sûr, c'est leur... Après, est-ce qu'on sort une info ou est-ce qu'on ne la sort pas selon le contexte? C'est un vrai débat aussi qui traverse la pièce.
Voilà, exactement. Exactement. Mmh. Parce que, en définitive, ils ont peur d'être censurés, parce que à tout moment, les informations qu'ils donnent peuvent passer sous le joug de la diffamation. Mmh. Et on entend même dire qu'ils risquent 5 ans de prison.
Oui, tout à fait. Il y a une évolution d'une loi qui existe, qui est la loi du secret des affaires, qui a été passée il y a quelques temps, et qui protège donc le secret des affaires, ce qui est important, hein, faut pas le nier, mais c'est une loi qui est un peu étrange, parce qu'elle peut rentrer en conflit avec la protection des sources, justement. Et a priori, la protection des sources est sanctuarisée, c'est quelque chose de très très important pour la liberté de la presse et pour l'équilibre d'une démocratie. Mais cette loi du secret des affaires peut évoluer, et si jamais on la met prioritaire face au secret des sources, effectivement, les journalistes peuvent se retrouver très vite en danger. Je ne pense pas que ça puisse être le cas avec le président actuel ou les présidents précédents, mais...
Et dans d'autres pays, ça se passe comme ça.
Bien sûr.
D'autres pays, il y a des journalistes qui sont assassinés.
Sans aller jusque-là, il y a aussi des formes de pression, de remise en cause du travail journalistique. Même dans les démocraties installées, il y a une violence verbale et parfois aussi dans les actes de certains présidents aux États-Unis, au Brésil, même en Angleterre. Il y a eu des choses contre la BBC qui étaient assez dingues. Donc il y a une défiance des politiques vis-à-vis des journalistes qui traverse un peu beaucoup de pays en ce moment.
Ah ouais, oui. Donc en définitive, un journaliste. Enfin, ces journalistes-là, parce que je ne sais pas, moi, je ne connais pas tous les journalistes, ces journalistes-là, ils sont engagés, finalement. Ils sont engagés pour défendre une information la plus juste, la plus objective possible.
Oui, ils sont très engagés dans leur conviction de la liberté de la presse, dans leur conviction de faire un journalisme totalement indépendant et apolitique, dans le sens où ils ne défendent pas une idéologie. Après, dans ce contexte-là, ça devient très très vite très compliqué. Ça qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où chacun d'entre eux ils peuvent aller, quelle est leur limite, quel est leur point de rupture, à partir de quand ils doivent prendre parti, parce que ça ne va pas aller mieux. C'est dès le départ. La pièce s'ouvre sur l'élection d'un...
Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre dans ce cas de figure. Imaginons que ce soit l'extrême droite en France, parce que là, je ne sais pas dans quel pays ça se trouve, mais on peut faire... C'est en France, et voilà, donc, oui.
Après, c'est une fiction.
Oui, bien sûr. Mais on peut très bien imaginer que ça se passe en France, et là, c'est vrai qu'on grelotte. Enfin, je veux dire, on commence à transpirer ou grelotter, c'est l'un ou l'autre. On se dit, mais zut, alors, qu'est-ce qui nous attend? Et c'est la question que vous êtes posée, véritablement.
Bien sûr, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'histoire passée, c'est le futur. Qu'est-ce qui peut nous arriver et à quel point la démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile. L'élection d'un candidat extrême droite, sans même parler de la France d'aujourd'hui, est quelque chose qui peut arriver, qui est arrivé dans le passé, qui arrive dans les pays amis en ce moment. Revendiqué, Bolsonaro se revendique d'extrême droite, Trump ne le fait pas, mais il y a quand même des marqueurs assez forts qui vont dans cette direction-là, donc ça peut exister, mais la France n'est pas du tout à l'abri de ça, manifestement, donc c'est une espèce d'exploration sur ce que pourrait être un éventuel futur.
Oui, et puis aussi une sorte d'alarme, parce que, moi ce que j'ai ressenti, c'est que, en définitive, la rédactrice en chef n'a pas pris la mesure de ce que ça représentait finalement, ce pouvoir.
Elle prend la mesure.
Elle la prend, mais...
Dès le départ, elle est très très sur la défensive, elle essaye de mettre des pare-feux pour se préparer, elle sait qu'il va y avoir un combat qui est difficile. Après, elle refuse viscéralement de prendre position contre un pouvoir politique, quel qu'il soit. C'est le premier débat.
Parce qu'il a été élu, soi-disant, démocratiquement.
Démocratiquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, elle doit couvrir ça comme une alternance comme une autre. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une alternance comme une autre ? Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement, il n'a jamais rendu les clés du pouvoir après. Donc, il y a aussi un moment où la démocratie est en train de s'effondrer. Une fois qu'elle est effondrée, c'est un peu trop tard. Hein. C'est difficile de récupérer. Mais il faut réagir avant, quand elle est en train de s'effondrer. Mais est-ce que dans les premières heures de l'accession de ce personnage Thomas Mérindien au pouvoir, on est déjà dans un état fasciste ou est-ce qu'on est toujours en démocratie ? À quel moment ça bascule ? Et à quel moment
il
faut
prendre... Il y aura une suite, j'imagine. Il va y avoir une suite, peut-être.
Je ne pense pas. Non, la pièce se suffit elle-même. C'est sur l'effondrement du journalisme et une certaine forme de résistance idéologique de chacun de ces journalistes par rapport à cette situation.
Après, donc, il ne reste plus que faire du journalisme clandestin.
On va raconter la fin de la pièce, mais bon,
non, je sais pas, hein, ouais. je me dis finalement dans ce cas de figure,
tous les États fascistes à un moment ont musé la presse, c'est un des premiers trucs que font les États fascistes, donc au bout d'un moment, effectivement, quand un État fasciste s'installe, la liberté de la presse disparaît, c'est une mécanique, donc effectivement, si on veut faire du journalisme en État fasciste, il faut le faire de manière
presse et télévision aussi.
Oui, journalisme tout confondu, bien sûr. Un État fasciste ne peut pas avoir un contre-pouvoir, même médiatique, etc. Donc, ils sont obligés d'éteindre tout, parce que sinon, il n'existe pas.
Mais dans quelle mesure on peut se poser la question, un journaliste peut se sentir indépendant, alors que le pouvoir financier, ce n'est pas lui qui l'a. Il est entre les mains de...
C'est la question que traverse le monde actuellement. Il y a un nouvel actionnaire qui arrive. Ils ont très très peur pour leur indépendance éditoriale. Il y a des tribunes, des débats quotidiennement dans ce journal. Et ce nouvel arrivant apporte pas beaucoup de garanties sur l'indépendance de la rédaction. Donc il y a une vraie inquiétude.
Et tout dépend de l'actionnaire, de quelle tendance il est.
Ouais.
S'il est pro-gouvernemental, comme ça se passe...
Mais c'est un vrai problème, qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Figaro est détenu par Dassault depuis je ne sais pas combien de temps. Député de l'URPR à l'époque.
Maintenant, Canal qui a été repris par Bolloré, il est beaucoup plus gouvernemental, Macron, que qu'il était auparavant.
Il reste très peu de journaux qui sont totalement indépendants. Il y a Mediapart, le Canard Enchaîné, et puis deux, trois autres. On a vite fait le tour.
Mediapart, c'est le seul.
Mediapart et Canard Enchaîné.
De ceux qui ne veulent pas être...
Mais c'est extrêmement compliqué. Le Monde essaye de garder son indépendance journalistique. Ils ont eu des difficultés financières à un moment. Un actionnaire est arrivé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Là, il y a un nouvel actionnaire qui dit, on verra.
Oui.
Donc, effectivement, ils ont raison. Se crisper, ils ont raison d'essayer de trouver des garanties. Après, est-ce qu'ils vont réussir à les obtenir ? Pas sûr, parce qu'ils n'ont finalement pas beaucoup de pression, à part une pression médiatique qu'ils essayent de...
C'est pour ça qu'à Libération, les journalistes, à l'époque de Julie et après Julie, il y a une grande bagarre entre eux, ça a beaucoup
coûté. Un virage idéologique. Bon, après, Libération s'est construit sur un journaliste d'opinion très très marqué, très très à gauche, même d'extrême gauche au tout début. Donc, après, il y a eu différentes évolutions dans l'histoire de Libération, mais le problème de qui détient les titres, c'est quelque chose d'important, effectivement, parce que ça existe dans la pièce aussi. Il y a pas pour les témoins, mais il y a d'autres journaux qui existent.
Oui, La République, d'autres journaux. Il y en fait mention dans la pièce, oui. Mais, alors, il y a quelqu'un qui arrive, non ?
Non, je ne pense pas.
Justement, Clara, la jeune comédienne. Ceci dit, c'est pas une pièce qui est didactique, hein, c'est une pièce qui est très dynamique. Et puis, au niveau de la mise en scène, c'est très... c'est aussi très vif comme mise en scène. On est vraiment dans une dans le lieu où se passent les rencontres avec les journalistes, nos conférences de travail. Et puis, il y a les écrans où apparaissent les nouvelles ou les articles que commencent à écrire chacun des journalistes.
Ouais, c'est un personnage très important de la pièce, effectivement, l'écran où on voit le journal en train de se faire, donc on voit les nouvelles unes apparaître. Parfois, les journalistes débattent sur le ton des unes. Le premier, c'est l'extrême droite au pouvoir, qui a un titre très neutre, et il y a un journaliste qui aimerait bien avoir un titre beaucoup plus combatif et beaucoup plus qui prennent parti. Et puis il y a cet écran là qui affiche le journal en continu. Parfois il affiche les archives du journal qui permettent d'éclairer certaines intrigues de manière sous un œil différent. Il affiche aussi les étapes de travail. Parfois il y a un journaliste en train d'interviewer une source et on voit ce qu'il écrit.
C'est intéressant aussi de voir comment travaillent ces journalistes.
Bien sûr,
aussi
et c'est puis, la manière dont ils parlent à leurs sources et la manière dont ils écrivent, c'est pas toujours exactement la même chose.
Et puis ils sont souvent très un peu ambivalents. Ce que je trouvais intéressant dans les personnages, c'est que on ressent bien leur vulnérabilité. C'est pas que des journalistes qui veulent faire du papier ou qui veulent.
Une existence, c'est des personnages, c'est pas que des fonctions.
Voilà,
même
c'est
si,
ça.
Même si c'est d'abord et en tout une pièce sur le journalisme, mais leur vie privée doit pas prendre le pas sur le sujet, mais ils ont quand même tous une existence et des enjeux personnels qui viennent
se surajouter,
nourrir leur problématique.
En même temps, on sent bien que ils font du journalisme, c'est presque une. C'est leur profession de foi d'être journaliste. On voit, c'est un passion, c'est vraiment.
Oui, quand on le fait à ce niveau-là, c'est une question de vie ou de mort pour eux.
Exactement.
Ils n'ont rien d'autre, c'est comme quand on est artiste. Il y a un moment où on ne peut pas faire autre chose, c'est viscéral. Et pour eux, c'est que.
Là, en fait, la tension va crescendo.
Ouais.
Ça commence à bouillir un petit peu. Dès l'entrée de jeu, dans la pièce, on n'a pas d'extrait audio. Mais dès l'entrée de jeu, on sent que ça commence à fuminer, que ça a à bouillir. Et à la fin de la pièce, on peut dire que c'est. Bon, c'est.
C'est l'explosion.
C'est l'explosion, oui. Exactement.
Ouais.
Et donc, ça, c'est vraiment une pièce très intéressante parce que ça aussi, au-delà des journalistes, ça nous interroge, nous, en tant que citoyens, parce qu'on, on se rend pas bien compte. C'est vrai que là, ce sont des petits signaux d'alarme, quoi. Je veux dire, il faut être vigilant. Très vigilant. Quand on le peut, la liberté, ça a un prix.
C'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'on est embarqué avec eux en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'on apprend l'élection de l'extrême droite dès les premières secondes de la pièce en même temps qu'eux. Et on est de leur côté parce qu'on est avec eux, c'est les seuls personnages. Même s'ils rencontrent des sources et des différents interlocuteurs, mais c'est quand même. Quand même eux les personnages, et donc on est obligé, j'espère en tout cas, de se positionner, de se poser les mêmes questions qu'eux et d'essayer d'y répondre tous individuellement. Parfois ils font des choix.
C'est une question de tempérament, on a l'impression
un peu. De tempérament, de conviction.
De conviction, et puis
de regard aussi. Il y en a certains qui se voilent la face pendant un certain moment, d'autres qui veulent réagir trop vite, trop fort aussi. C'est difficile d'analyser une situation comme celle-là. Parce que Catherine, la rédactrice en chef, le dit, le type a été élu démocratiquement. Il n'y a pas de raison de partir en résistance au début. Il y a des idées qui sont terribles, fascisantes, mais les gens ont voté pour lui. Il a été élu. Donc c'est difficile de se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'on se positionne trop tôt, trop tard ? C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais enfin là, c'est leur instrument de travail qui est en jeu.
Alors, donc, pas dès le départ, ils ont peur que ça devienne.
Oui, mais enfin bon, c'est très. Effectivement. Bon, mais c'est aussi l'enjeu de la pièce, c'est de créer du suspense aussi. Par rapport aux réactions de chacun des journalistes, suivant leur tempérament, suivant leur sensibilité. Il y en a une qui est un petit peu plus conservatrice, je dirais pas réactionnaire, mais conservatrice, qui elle, elle se satisferait bien de l'État, elle pactiserait pas.
En fait, non, elle, je parlais de Anna, peut-être, elle croit pas au fascisme. Elle pense que, comme beaucoup de gens, on est dans un État, dans une démocratie qui est très installée, et que, en fait, même si l'extrême droite passait demain, ça serait un mauvais moment passé, mais il y aurait une alternance, et après...
Elle veut pas y croire, quoi.
Elle veut pas y croire, et puis elle connaît ce monde-là politique tellement par cœur, hein, qu'elle peut naviguer avec tout le monde, tout le temps. Donc elle est...
Elle n'est pas un peu opportuniste, un petit peu?
Non, elle est... Non, franchement, c'est votre regard, pas de souci, mais pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel et qui est comme un poisson dans l'eau. Et qui ne voit pas, qui n'a pas la même lecture à la situation. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne lecture, une mauvaise lecture. Ils ont tous une lecture à la situation.
C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rompre le débat, même avec des personnes qui sont étiquetées extrême droite.
Et c'est un vrai débat des journalistes. Parfois, il y a des journalistes qui refusent de parler avec certains partis
politiques. Voilà, tandis qu'elle, elle dit
on doit parler avec tout le monde, on peut parler avec tout le monde. C'est notre métier, c'est même notre devoir de parler avec tout le monde. Elle a une manière de voir les choses qui est assez pur, et d'autres disent il y a une ligne rouge, on peut pas parler de la pub autant avec des fascistes qui veulent créer un système de caste dans la société française, c'est pas possible. Mais chacun, ils ont tous un regard différent sur la situation, c'est ça que je trouve intéressant.
Oui, c'est intéressant, et puis surtout c'est porté par des grands comédiens, comédiennes, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Je tiens à vous le dire, parce que vraiment ils portent la pièce, hein. Ouais. La pièce elle est écrite, etc., mais je pense que comme vous les connaissiez déjà, les comédiens,
pas tous.
Non, non. Mais vous l'avez écrite pour qu'elle soit jouée.
Ouais.
Et déjà, vous aviez le sentiment, comme vous dites, quand vous écrivez, vous mettez en scène dans votre... vous avez déjà l'idée de la mise en scène.
Oui, bien sûr.
Et bon, franchement, ils sont formidables, les comédiens. Ouais. Parce que c'est une pièce qui est extrêmement physique. Hein. C'est physique. Oui, c'est, hein. Ils sont comme ça... les ongles, enfin je veux dire, moi je suis épatée, quoi, je veux dire, parce que c'est une tension pendant 2 heures, c'est vraiment...
Ils sont bien fatigués à la fin.
Surtout Sophie, hein, je me dis, mais comment elle fait?
Oui, Sophie a un truc...
Qui a l'air si douce, mais elle n'est pas si douce dans la pièce.
Elle a une demi-heure à la fin, notamment, qui est particulièrement physique et difficile et qui demande...
Et vous, à un moment donné, vous interviewez le rédacteur en chef, je ne sais plus. C'est du film ou c'est pour de vrai? Enfin, je veux dire.
Non, c'est filmé.
C'est la seule scène filmée. Parce qu'à un moment donné, on voit.
Il y a une matinale radio, effectivement, le rédacteur en chef est interviewé dans une matinale radio pour donner son point de vue, etc. C'est une scène qui est filmée pour une raison. Qui est dans le spectacle, mais c'est la seule.
Ouais, tandis qu'à un moment donné, on voit la rédactrice en chef qui court dans les couloirs. Et ça, c'est retransmis en direct et en vidéo.
Ouais.
Voilà. On la voit courir. Enfin, ouais. Bref, c'est... c'est impressionnant, quoi, ouais. Je veux dire. Et que pensez-vous après, peut-être, je ne sais pas si Clara va venir. Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux par rapport... Parce qu'à un moment donné, on la voit courir et elle fait un tweet...
Oui, alors c'est alors... d'autres manières de faire du journalisme, c'est une évolution, effectivement. Après, eux, c'est une rédaction extrêmement installée et qui font du journalisme pur. Après, il y a tout ce débat sur l'espèce de nouveaux journalistes qui n'en sont pas vraiment, qui font des images brutes. On a vu récemment, je ne sais pas comment il s'appelait, ce journaliste qui avait été arrêté, passé en garde à vue parce qu'il n'avait pas de carte de presse. Mais lui, filme des images brutes et il les revend à des rédactions. Et du coup, il n'a pas de carte de presse, mais il travaille comme journaliste depuis 20 ans. Donc c'est d'autres manières de faire du journalisme. Les réseaux sociaux, ça pose aussi des questions sur... Mais ça pose plus la question, à mon avis, de la manière dont les gens s'informent. Parce que, effectivement, il y a des... Il y a plein de sources d'informations possibles en France et dans le monde. Et sur les réseaux sociaux, on voit tout passer. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de hiérarchie. Donc il faut pouvoir choisir ces informations. Et parfois, les réseaux sociaux n'offre pas ce filtre-là, et les gens voilà, prennent un peu la première info qui peut arriver. En tout cas, certaines personnes peuvent prendre la première info qui peut arriver.
Non, parce que je me posais la question du pouvoir de ces réseaux sociaux, justement, de cette information,
mais
de
cette information. Mais c'est le pouvoir qu'on leur donne, c'est-à-dire que certaines personnes n'en donnent...
Ah, là, oui, il y a quelqu'un qui arrive, ouais, c'est clair.
Certaines personnes donnent aucun pouvoir aux réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'il n'y a rien, et que si on publie un article de presse sur Facebook, c'est un article de presse, il y a une légitimité. Si on dit juste un truc à l'emporte-pièce, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais il faut que les auditeurs, les lecteurs fassent le tri, eux. C'est à nous de choisir ça.
Bonjour.
Ah, une comédienne.
Ah ben voilà. Bonjour. Je ne me souviens plus exactement le rôle.
Gérard est mon assistante. Elle ne joue pas dans la pièce. D'accord. Mais elle est venue pour qu'on puisse faire un extrait de.
Voilà, parce que je me disais, bon, j'ai pas. Alors, ben c'est parfait. Vous arrivez au point. Vous avez choisi un extrait.
Ouais. On va faire l'interview. Financier, c'est peut-être un peu long. Ouais.
Allez, une pause musicale. Attends,
vous le montez
Comment ?
L'émission, vous la montez après, j'imagine.
C'est en direct.
Ah, c'est en direct ? D'accord. Qui ne me regarde pas.